Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Vous le savez sans doute, tout de suite après le culte, il y a ce repas solidaire été où il s'agit de se rassembler, avec une volonté réaffirmée cette année de se rassembler si possible de manière intergénérationnelle, pas simplement les plus âgés de notre paroisse, mais aussi des plus jeunes, afin qu'ensemble nous puissions vivre un moment de communion fraternelle, afin aussi, c'est le souci de l'Église et du diaconat, que les plus âgés d'entre nous, qui pendant l'été peut-être se retrouvent un peu seuls, puissent avoir un temps de joie partagé avec d'autres et avec des plus jeunes, et notamment autour d'un repas. On sait dans la culture française combien les repas sont importants. Il paraît qu'on est un des peuples qui passons le plus de temps à table. Il faudrait vérifier ça, mais je crois que cela est vrai. Et nous retrouvons aussi dans l'Évangile, ce sera mon propos ce matin de ma prédication, combien les repas sont importants, combien ils ont été importants pour Jésus, combien ils ont été des temps pour Jésus, là aussi de communion, de rencontre fraternelle, et aussi des temps où l'Évangile, où le cœur de l'Évangile était annoncé. Peut-être avec vous revoir quelques-uns de ces repas importants pour commencer. Et d'abord, dans l'évangile de Jean, le ministère de Jésus commence par un repas, par les noces à Cana, repas très important, où Jésus transforme l'eau du rituel, hein, l'eau qui servait à se purifier avant le repas, en vin que l'on peut qualifier de vin de fête, puisque le maître de maison ne comprend pas comment cela se fait-il, que tu donnes le meilleur vin à la fin des noces. C'est incompréhensible, mais il y a là, bien sûr, la volonté de l'évangéliste de Jean, déjà d'annoncer la couleur, déjà d'annoncer la fin de l'évangile, que la fin de l'évangile, c'est à la fois, évidemment, l'eau transformée en vin, vin symbole du sang du Christ, mais aussi vin de fête, vin du royaume, vin du banquet des noces de l'agneau, comme nous l'avons relu dans le livre de l'Apocalypse. Donc ce n'est pas du tout un hasard si l'évangile de Jean commence par un repas. Dans les évangiles encore, nous voyons Jésus prendre le temps de s'asseoir à table, et notamment de s'asseoir à table avec ceux qui sont regardés de mauvaise manière par la société, les collecteurs d'impôts, qui comme aujourd'hui n'avaient pas bonne figure, et puis les prostituées. Comment est-ce possible, si tu es le Christ, comment est-ce possible que tu t'assoies, que tu partages le pain et le vin, le pain et le vin de l'amitié, le pain et le vin de la fraternité, le pain et le vin de la foi avec de tels hommes, de telles femmes? Cela est-il bien concevable? Oui, pour le Christ. Là aussi, c'est un geste éminemment évangélique, éminemment prophétique. Jésus, en prenant un repas avec ses laissés pour compte de la société, réaffirme leur dignité, réaffirme qu'ils sont des enfants de Dieu. Il nous faut entendre les paroles du prophète Ésaïe: « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et je suis plus intelligent que vous, dit le Seigneur à son peuple. » Alors, au lieu de discuter, au lieu de réfléchir, suivez mon exemple d'amour, suivez le geste du Christ, et osez inviter à votre table, non pas seulement vos amis, ceux que vous aimez, ceux qui vont pouvoir vous rendre le même geste, vous rendre votre invitation, mais osez inviter à votre table les estropiés, les boiteux, les aveugles, etc., etc. Et nous entendons derrière ces paroles aussi la parabole où le maître de maison invite largement à son banquet et personne ne répond à son invitation. Alors il dit à ses serviteurs: allez sur les places et ramenez ceux qui n'étaient pas invités au départ. Autre texte aussi où les questions de repas, peut-être un de mes préférés de l'évangile, ce texte après la résurrection du Christ dans l'évangile de Jean, une nouvelle fois, où Jésus apparaît à ses disciples au port du lac. Ses disciples sont retournés à la pêche. Et on ne sait pas finalement, c'est une vraie question, est-ce qu'ils sont retournés à la pêche parce qu'ils étaient pêcheurs et parce qu'ils n'ont plus d'espérance? Ou est-ce qu'ils sont retournés à la pêche parce qu'ils sont pleins d'espérance et c'est leur travail d'être pêcheurs, et en même temps qu'ils travaillent, qu'ils sont pêcheurs, ils vont pouvoir annoncer l'évangile, y compris sur leur lieu de travail? C'est aussi notre appel, de prêcher l'évangile sur notre lieu de travail. Donc, je ne suis pas sûr de ce qu'il y a au cœur des disciples, mais en tout cas, ce qui est magnifique ce jour-là, ce petit matin-là, c'est qu'ils discernent que c'est bien le Christ qui est sur la plage. C'est Jean, le disciple que Jésus aimait, qui dit « C'est le Seigneur ». Pierre se jette à l'eau, toujours. La force de conviction de Pierre, son énergie. Et les voilà, rassemblés sur le rivage, autour d'un feu de bois, avec quelques poissons, un petit peu de pain, et il y a là une sainte scène frugale, un peu de pain, quelques poissons, mais la communion fraternelle est là. Et Jésus réaffirme là son identité, bien sûr, de Christ, de Messie. Il est bien ressuscité, ils peuvent le voir. Ils peuvent même le voir manger le pain et manger les poissons. Mais il réaffirme aussi là sa dimension de diacre. C'est lui qui prépare le repas. C'est lui qui a préparé le repas à ses disciples. Le Christ à la fois ressuscité et aussi diacre qui nous appelle au service. Il y aurait bien d'autres textes encore à convoquer qui nous disent l'importance du repas dans les évangiles, mais je m'arrête là et je vous invite peut-être, si vous avez le temps, d'aller rechercher dans les évangiles ces moments de repas, ces moments de fête, ces moments de communion fraternelle. J'aimerais revenir maintenant sur ce magnifique texte d'Ésaïe 55 et en le réentendant lire par Bertrand, je me suis dit, est-ce que c'est bien nécessaire de prêcher? Il est tellement magnifique, ce texte d'Ésaïe 55. Tout de même quelques mots. Ce texte qui nous dit le royaume de Dieu comme un festin, comme un banquet. Le royaume de Dieu comme un repas partagé entre amis. Et voilà ce que j'entends dans cette proclamation d'Ésaïe. D'abord que cette invitation au banquet, nous n'avons pas à la gagner, nous n'avons pas à la payer, elle est gratuite, venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez, c'est moi qui vous invite, c'est moi qui prends l'initiative, venez, il y a pour vous des vins succulents, des viandes grasses, et c'est moi qui offre. Je ne sais pas le prix au marché noir de la finale de France-Croatie tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai entendu ce matin qu'il y avait des Français qui avaient pris l'avion ce matin et qui avaient acheté leur billet au dernier moment. Je ne sais pas le prix. Ça doit être très cher. Eh bien, les vins du royaume sont bien plus chers que ce qu'on peut imaginer. Mais pour nous, c'est gratuit. Première caractéristique de ce royaume, de ce festin du royaume, c'est qu'il est gratuit. La deuxième caractéristique, c'est qu'il ne se gagne pas. Il ne se gagne pas par notre capacité à bien prier, à bien agir, à faire des œuvres. Il ne se gagne pas par notre piété personnelle. Il ne se gagne pas non plus par notre intelligence, notre capacité à poser des mots justes sur Dieu, à faire de longues études de théologie. Évidemment que cela sert, je ne vais pas vous dire le contraire. Évidemment que si on lit quelques livres de théologie, cela nous aide à affiner notre réflexion, mais encore une fois, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il m'est arrivé d'être stupéfait dans mon ministère de pasteur de voir combien l'évangile avait été perçu par un petit garçon de 3 ans, par une petite fille de 5 ans, qui avait saisi l'évangile, qui avait été saisie par le souffle de l'esprit, alors que d'autres personnes que j'accompagnais étaient en chemin et avaient du mal à se saisir de cela. Il y a quelque chose de profondément injuste. Pourquoi cela tombe comme ça sur certains et pas sur d'autres? Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Le royaume de Dieu, le banquet final, ne s'acquiert pas par notre intelligence. Il est de l'ordre d'une grâce. Il est de l'ordre, est-ce que j'entends dans Ésaïe 55 ce matin, d'une soif, d'un désir. Venez, dit le prophète Ésaïe, vous tous qui avez soif et qui avez faim. C'est peut-être cela la seule condition posée par le texte. Il faut avoir faim et soif de l'évangile. Si nous avons faim et soif de l'évangile, alors le banquet final s'ouvre à nous. Alors nous avons l'assurance que Dieu, qui a frappé à notre porte, comme nous dit le livre de l'Apocalypse, va prendre ce repas avec nous. Mais c'est peut-être la grande difficulté de nos sociétés occidentales d'avoir enfin et toujours soif de l'évangile. Quand on va dans d'autres pays, quand on va en Afrique, quand on va en Asie, on voit des gens qui sont très très pauvres, qui n'ont pas de quoi manger tous les jours, qui n'ont pas un toit sur la tête, mais qui ont faim et soif de l'évangile. J'ai été saisi par cela quand je suis allé en Haïti il y a quelques années, des gens qui étaient dans la plus noire pauvreté, mais qui étaient d'une immense dignité. Je revois encore ces petits-enfants, ces petites filles avec leurs couettes dans les cheveux, qui est avec de très belles robes et qui allaient à l'église en chantant, en sachant qu'elles n'allaient peut-être pas manger ni le midi ni le soir, mais elles avaient faim et soif de l'évangile et elles étaient dans la joie. Avons-nous encore suffisamment faim et soif de l'évangile? Venez vous tous qui avez faim et soif, nous dit le Seigneur. Venez manger des viandes grasses. Venez boire des vins succulents. Le royaume de Dieu, c'est un temps de fête et de joie. Et peut-être je fais encore écho à votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez bu le meilleur vin de votre vie? Je parle au plus de 18 ans, bien sûr. Pensez à cela, le meilleur vin de votre vie et dans quelles conditions vous l'avez bu. C'est quelque chose d'extraordinaire de boire un très très bon vin et le boire avec des amis dans un temps de communion fraternelle. Eh bien, le royaume de Dieu est semblable à cela. Vous imaginez? Un merveilleux vin bu avec des amis. Et cela de manière éternelle. C'est extraordinaire. Moi, je vous partage juste ça, moi, un de mes grands souvenirs de vin partagé, c'était quand j'étais pasteur à Mialet, Saint-Jean-de-Gare et Mialet, dans une petite paroisse de Mialet, avec très peu de paroissiens, à peu près 150-200. Et une paroissienne qui était veuve, qui vivait la moitié de l'année à Nîmes, la moitié de l'année à Mialet, m'avait invité. Et elle m'a dit: Hervé, Je vais vous faire un plaisir, je vais vous faire goûter une très bonne bouteille. Elle m'avait ouvert une très bonne bouteille de Pommard. Et vous voyez, je me souviens encore de ce temps-là. On était tous les deux dans sa petite maison, là, le soir, à Mialet. Je crois que c'était un soir d'ailleurs de juillet ou d'août, et on a partagé cette bouteille tous les deux. Mais j'ai la conviction que ce soir-là, on n'était pas simplement deux, mais qu'il y avait un troisième invité qui nous accompagnait. Enfin, comment ne pas parler de la Sainte Cène quand on parle de repas? Ce dernier repas que Jésus partage avec ses disciples, où il dévoile à nouveau qu'il est bien celui qui doit mourir et ressusciter d'entre les morts, qu'il est bien celui qui doit donner sa vie pour tous. Pour tous, et ce qui est très surprenant, même pour Judas, qui participe aussi à ce dernier repas. Judas n'en est pas exclu, pourtant Jésus sait qu'il va le trahir. Un des évangiles nous dit même qu'il dit que c'est celui qui met la main dans le plat en même temps que moi qui va me trahir. Pour autant, Jésus ne l'exclut pas de la Sainte Cène. Et c'est pour moi quelque chose de très surprenant. Et j'entends là, il me semble, le pardon évoqué par le prophète Ésaïe de Dieu, le pardon évoqué dans tous les évangiles. Dieu nous pardonne nos fautes. Ce jour-là, Jésus-Christ pardonne à Judas sa trahison. La Sainte Cène qui est à la fois ce repas tragique, qui annonce l'arrestation de Jésus-Christ, qui annonce sa mort, qui annonce le don de sa vie, mais aussi ce repas qui est annonce du royaume à venir, annonce du festin à venir, annonce du vin nouveau que nous sommes appelés à boire dans le royaume avec le Christ. Alors, chers amis, peut-être certains d'entre vous seront avec moi à solidarité pour partager un peu de pain, un peu de vin, un peu d'amitié avec les plus anciens de notre paroisse. Pour les autres, je vous souhaite dans la semaine à venir, et pour ceux aussi qui seront à solidarité, des repas partagés, pleins de fraternité, et aussi, je l'espère, pleins de vin de fête.